de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. L'ambassadrice d'Indonésie a vu des traces de l'islam à Cuba. La Chine mettra en place un système régional de lutte contre la peste porcine pour l'Afrique. Le président chinois assistera au sommet sur le changement climatique à l'invitation de Biden. La Russie vise l'immunité collective contre la COVID-19 en automne. L'Inde a signalé plus de 2000 personnes décédant de la COVID par jour. L'envoyé spécial de l'ONU tient une réunion avant le sommet de l'ASEAN sur la Birmanie. Et la plus grande industrie verrière d'Asie du Sud-Est est construite à Batan, Java centrale. Bon, chers auditeurs, voici la nouvelle en complet. L'ambassadrice d'Indonésie a vu des traces de l'islam à Cuba. L'ambassadrice d'Indonésie à Cuba, Nana Yulia, a visité la mosquée Abu Bakar à Siddiq dans la province de Holguin, à environ 10 heures de route de la Havane. La visite a été effectuée pour voir l'existence et les traces de l'islam dans différentes provinces de Cuba. Cela a été transmis par Nana Yuliana dans une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à la Havane qui a été reçue à Jakarta mercredi. Au cours de la visite, l'ambassadrice Nana a été reçue par l'imam de la mosquée Abu Bakar Siddiq nommé Yunus qui était accompagné de son épouse Fatima. L'ambassadrice Nana a eu l'occasion d'échanger des informations sur l'islam en Indonésie et à Cuba. L'imam Yunus raconte l'histoire de l'entrée de l'islam à Holguin et la création de la mosquée. Avec l'aide de la Ligue islamique à La Havane, la mosquée Abu Bakar Siddiq à Holguin a progressivement commencé à s'ouvrir pour devenir un lieu de culte pour la communauté musulmane. La Chine mettra en place un système régional de lutte contre la peste porcine pour l'Afrique. Le ministère chinois de l'agriculture prévoit mercredi de diviser le pays en 5 régions pour se voir confier la responsabilité principale de la prévention et du contrôle de la peste porcine africaine, ainsi que d'autres maladies animales. Le plan fait suite à une grave vague de peste porcine au cours de l'hiver dans les régions du Nord et dans plusieurs provinces, qui a causé des pertes importantes dans le plus grand troupeau de porcs du monde. Les 5 régions seront chargées d'assurer la notification des flambées des maladies, l'évaluation des risques et les futures politiques de lutte contre les flambées. Ils établiront également une zone indemne des maladies pour garantir que, dans les fêtes, il n'y a pas d'entrée et de sortie des porcs en dehors des porcs d'élevage et des porcelets. La Chine a précédemment discuté de la mise en œuvre de la compartimentation pour mieux contrôler la propagation de la peste porcine africaine et, à compter du 1er avril, a restreint la mobilité des porcs dans la région. Le président chinois assistera au sommet sur le changement climatique à l'invitation de Biden. Le président chinois Xi Jinping participera jeudi 22 avril au sommet sur le changement climatique dirigé par les États-Unis à l'invitation du président Joe Biden. Lors de la première rencontre entre les deux dirigeants depuis la nouvelle administration américaine, Biden a invité des dizaines de dirigeants mondiaux à rejoindre le sommet virtuel de deux jours qui débutera jeudi. Après avoir amené les États-Unis à l'accord de Paris de 2015 sur la réduction des émissions mondiales de carbone, selon la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunyin, mercredi, le président Xi assistera au sommet sur le changement climatique par vidéo et prononcera un discours important. Pékin et Washington sont constamment en désaccord sur des questions allant des violations présumées des droits de l'homme à l'influence économique de la Chine sur d'autres pays. Cependant, les États-Unis et la Chine, qui sont les deux plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au monde, ont découvert un intérêt commun dans la lutte contre le changement climatique. La Russie vise l'immunité collective contre la COVID-19 en automne. Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi qu'il souhaitait que la Russie obtienne l'immunité collective contre la COVID-19 en automne et a demandé aux citoyens russes de se faire vacciner contre la COVID-19. La Russie a vacciné plus de 8 millions de personnes sur environ 144 millions de personnes, ont déclaré de hautes responsables la semaine dernière. On ne sait pas exactement combien de personnes ont reçu la deuxième dose de vaccin. Le Kremlin a déclaré que la demande de vaccination en Russie était décevante. Poutine, qui a reçu une deuxième dose du vaccin COVID-19 la semaine dernière, a profité de son discours annuel sur l'état de l'Union devant les hautes responsables et le Parlement mercredi pour exhorter davantage de Russes à rejoindre le programme de vaccination. La Russie a trois vaccins COVID-19, le plus populaire étant Sputnik V. Moscou approuve également deux autres vaccins COVID-19, EpiVac Corona et Covivac. L'Inde a signalé plus de 2000 personnes décédant de la COVID par jour. L'Inde a signalé plus de 2000 décès dus à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus élevé pour l'Inde à ce jour, selon les données du ministère de la Santé mercredi. Sur la base de ces données, les infections quotidiennes à la COVID-19 ont également touché à nouveau un record, à savoir 295 041 infections. Au total, 182 553 victimes de COVID-19 sont décédées en Inde, le nombre de cas atteignant 15,6 millions. Le nombre de cas de COVID-19 en Inde est le deuxième plus élevé au monde après les États-Unis, qui ont signalé 31 millions de cas de COVID-19. Les autorités indiennes comptent sur la vaccination COVID-19 pour aider à supprimer un pic record de cas dans la deuxième vague. L'envoyé spécial de l'ONU tient une réunion avant le sommet de l'ASEAN sur la Birmanie. L'envoyé spécial des États-Unis, Christine Schreiner-Bergner, visite Jakarta jeudi 22 avril pour rencontrer des responsables des pays d'Asie du Sud-Est afin de trouver la solution de mettre fin aux effusions de sang et de rétablir la stabilité en Birmanie. Selon trois sources connaissant le programme de Bergner, l'envoyé spécial de l'ONU en Birmanie ne participera pas au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, samedi 24 avril, mais tiendra une réunion en marge de l'événement organisé spécialement pour discuter de la question birmane. La plus grande industrie verrière d'Asie du Sud-Est est construite à Batang, Java centrale. Le président Joko Widodo a dit qu'il y aurait la pose de première pierre pour la construction de la plus grande industrie du verre de l'Asie du Sud-Est dans la zone industrielle Batang en Java centrale en mai 2021. Cela a été dit par le président lors de l'inspection de la zone industrielle de Batang dans Java centrale mercredi. Après l'industrie du verre, selon le président, une industrie qui produit des composants de percussors et de cathodes sera également construite en juin ou juillet 2021. Ces deux composants sont souvent nécessaires dans les secteurs intermédiaires et en aval de la chaîne de production de l'industrie du nickel. La zone industrielle de Batang devrait avoir une superficie de 4300 hectares et actuellement 450 hectares sont prêts. Les zones industrielles qui sont prêtes seront également utilisées pour le développement industriel lié à la technologie. Avec l'opération de la zone industrielle Batang, le président espère que l'investissement direct entrera en Indonésie plus rapidement et être en mesure d'accélérer la reprise de l'économie nationale. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le commentaire ayant pour le titre Retourner dans la ville natale ou mudik dans le cadre de l'Eid al-Fitr est interdit, mais les destinations touristiques sont ouvertes pendant les vacances de l'Eid cette année. À l'approche de l'Eid al-Fitr, la majorité des Indonésiens rentrent généralement chez eux ou retournent dans leur ville natale pour rester en contact avec leur famille et leurs proches qui vivent dans le village. Pour 2021, les Indonésiens ne retourneront pas dans leur village car le gouvernement indonésien a interdit le retour de l'Idul Adha au 17 mai 2021. La politique d'interdiction de retourner à la ville natale vise à empêcher la transmission de la pandémie de COVID-19. L'interdiction de retour à la maison est énoncée dans le règlement du ministre des Transports numéro 13 de 2021. Cependant, le gouvernement autorise l'ouverture des destinations touristiques au public pendant les vacances de l'aide. La politique du gouvernement d'autoriser l'ouverture de destinations touristiques pendant l'aide a suscité des critiques de la part de nombreuses parties. Le gouvernement interdit aux gens de retourner dans leur ville natale ou Mudik parce qu'ils s'inquiètent d'une augmentation de la transmission de COVID-19, mais les activités de voyage n'ont-elles pas aussi le même potentiel? Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de la Coordination du Développement Humain et de la Culture, Muhajir Effendi, expliquait que l'ouverture des attractions touristiques pendant l'aide vise à équilibrer la situation économique. En ouvrant des destinations touristiques, le mouvement des flux de biens et de services ainsi que le pouvoir d'achat et le pouvoir de consommation des populations devraient continuer à croître pendant l'aide de cette année. En outre, le ministre Muhajir Effendi a déclaré que l'interdiction de retour à la ville natale ou Mudik Lebaran 2021 est dans la période des restrictions sociales à micro-échelle. Ceci est différent de l'interdiction de retourner dans leur ville natale pendant la période de restrictions sociales à grande échelle. Dans cette période de restrictions sociales à petite échelle, selon Muhajir Effendi, ce n'est pas aussi strict que pendant les restrictions sociales à grande échelle. Donc, ce qui est interdit lors de cette Eid al-Fitr 2021 n'est que l'activité de retour au village. Le gouvernement, dans sa déclaration, a déclaré que l'ouverture des destinations touristiques doit être suivie de l'application des protocoles sanitaires. Le gouvernement estime que l'ouverture des destinations touristiques n'aggravera pas les conditions de la pandémie de COVID-19 tant que les gens appliqueront des protocoles de santé. La question se pose, est-ce que les gens savent déjà à quoi ressemble le protocole de santé dans les attractions touristiques? Le nombre de violations des protocoles de santé constatées dans les attractions touristiques pendant les vacances à ce jour montre que les gens ne connaissent pas parfaitement le protocole de santé des attractions touristiques. Ainsi, la tâche du gouvernement, dans ce cas le gouvernement régional avec le groupe de travail COVID-19 dans les régions, est de socialiser immédiatement au public concernant les protocoles de santé dans les attractions touristiques, en particulier les protocoles de santé dans les installations de tourisme nautique telles que la natation et la baignade de surf chaude. Le plus important est que le gouvernement local et le groupe de travail régional de COVID-19 doivent assurer la mise en œuvre des protocoles de santé dans les attractions touristiques. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانغ جن شوي بي تاي كو جو إي فان شي سين سين غوان جوان بين دو في ين دا تشوان بو ودا كو جو باو هو ني ودا كو جو باو هو وو
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir, chers auditeurs. L'histoire du jury va commencer avec l'événement du 20 avril 2015, l'ouverture de la conférence afro-asiatique 2015 à Jakarta. Le sommet afro-asiatique 2015 est une réunion entre les chefs des pays asiatiques et africains qui s'est tenue à Jakarta et Bandung, Indonésie, du 19 au 24 avril 2015. L'ouverture officielle a eu lieu le 22 avril par le président indonésien Joko Widodo. Cette conférence a eu lieu pour commémorer le 60e anniversaire de la première conférence afro-asiatique à Bandung en 1955. Le thème est promouvoir la coopération sud-sud pour la paix et la prospérité mondiale. La conférence afro-asiatique de 2015 a produit trois documents, à savoir le message de Bandung 2015, la déclaration sur le renforcement du nouveau partenariat stratégique afro-asiatique NAASP et la déclaration d'indépendance palestinienne. L'autre information est sur le jour de la Terre a été déclaré le 20 avril 1970. Le jour de la Terre est célébré chaque année le 22 avril et à l'international. Le jour de la Terre est conçu pour apprécier l'environnement sur la planète Terre et sensibiliser le public à la pollution. La commémoration du jour de la Terre a été lancée par le sénateur américain Gaylord Nelson en 1970. Nelson a été ému après avoir vu les dommages environnementaux causés par un énorme déversement de pétrole à Santa Barbara en Californie en 1969. Aujourd'hui, le jour de la Terre est célébré dans plus de 175 pays et coordonné à l'échelle mondiale par le réseau du jour de la Terre. Nous finissons l'histoire du jour avec l'événement du 22 avril 2016, l'accord de Paris a été signé. L'accord de Paris est un accord de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, CCNUCC, sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, l'adaptation et le financement. Cet accord a été signé à l'occasion de la commémoration du jour de la Terre le 22 avril 2016 à New York aux États-Unis. 195 pays ont signé cet accord et 141 d'entre eux l'ont ratifié. L'Indonésie est l'un des pays qui ont signé cet accord le 22 avril 2016. Le pourcentage de gaz à effet de serre ratifié par l'Indonésie est de 1,49%. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Terbang di ribaan di lubuk hati yang terdalam.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, le ministère de l'Environnement assure qu'il y a la supervision des acteurs commerciaux pour prévenir les incendies de forêt et de terre. Le vice-ministre de l'Environnement et des Forêts, Aludohong, a déclaré qu'une surveillance était en course pour s'assurer que les sociétés concessionnaires suivaient les dispositions visant à prévenir les incendies de forêt et de terre. Par exemple, les entreprises sont tenues de garder l'eau à 40 cm sur la surface de la tourbe. Aludohong a déclaré cela lors de sa réunion après l'événement du renforcement des capacités des négociateurs sur le changement climatique à Jakarta lundi le 19 avril. Il a déclaré que les entreprises exploitant les tourbières sont tenues de gérer les eaux de surface à l'aide de technologies telles que le blocage des canaux et les réservoirs pour s'assurer que la tourbe reste humide afin qu'elle ne brûle pas facilement. Il y a des points de conformité sont installés dans ces entreprises. Il a dit que sa partie continuerait de vérifier, l'existence de ces points en temps réel. Aludohong a veillé à ce que le ministère de l'Environnement et des Forêts continue de se coordonner avec les gouvernements locaux, les groupes de travail sur le terrain et les entreprises détenant des concessions. Il s'agit de garantir que les entreprises respectent les politiques de prévention des incendies de forêt et de terre. Selon lui, les incendies de forêt et de terre en Indonésie ont connu un déclin drastique en 2020. Selon les données du ministère de l'Environnement et des Forêts, la superficie des incendies de forêt en 2020 est d'environ 297 000 hectares. Pendant ce temps, en 2019, les terres brûlées ont atteint 1,6 million d'hectares. Aludohong a veillé à ce que les mesures générales de prévention soient poursuivies en tirant les leçons des expériences de ces dernières années. Des mesures préventives telles que la technologie de modification des conditions météorologiques ont été mises en œuvre, ainsi que le mouillage de la tourbe et l'augmentation des patrouilles sur le terrain. Ce sont les modèles actuellement élaborés par le ministère de l'Environnement et des Forêts. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Kau tak pernah berubah, kau masih saja dengan beran yang kau tak suka. Apa kata ayah? Jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Maksud hatiku ingin bebaskanmu.
Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute!
Bonsoir, chers auditeurs. Nous continuons notre programme avec le magazine culturel. Pour l'édition de ce soir, je vais vous présenter la mosquée Al-Hilal Ketangka. La mosquée Al-Hilal Ketangka est un témoin des traces de la propagation de l'islam dans le sud de Sulawesi. Il se dresse majestueusement dans le village de Ketangka, sous-district de Somba, Opu, en présence de Goa. Cette mosquée est également connue sous le nom de mosquée Ketangka, car elle est située dans le sous-district de Ketangka. De plus, cette mosquée est bien faite de Ketangka ou Ketangka. Ketangka est un type d'abri qui poussait dans le quartier autour de la mosquée. Cependant, cet arbre endémique, dont les peuples de Makassar considèrent comme bois d'honneur, est désormais très rare. La mosquée Ketangka est également appelée la grande mosquée de Cheikh Yusuf. Cette mosquée est la plus ancienne de Goa et a été construite sous le règne du roi de Goa XIV, Sultan Alauddin en 1603. Le nom de cette mosquée est tiré du nom d'un choufi charismatique adoré par les habitants du sud de Sulawesi. Le choufi est le Cheikh Yusuf Al-Makassari, qui est un parent du roi de Goa. La mosquée Ketangka a été construite face à l'est et dispose d'une cour avant. Le bâtiment de la mosquée a un foyer et une pièce principale. Cette mosquée a des caractéristiques telles que le fait d'avoir un dôme, un toit à deux couches ressemblant à un bâtiment joglo, un bâtiment javanais typique. Ce bâtiment a également quatre piliers qui sont ronds et ont une grande taille au milieu. Il y a six fenêtres de cette mosquée et cinq portes. Un toit à deux couches signifie des phrases de shahadat. Quatre piliers signifient les quatre compagnons du prophète. Une fenêtre signifie les piliers de la foi. Il y a cinq portes signifient les piliers de l'islam. La mosquée Al-Hilal Ketangka combine divers styles architecturaux du chinois, européen, javanais à la population locale. Le dôme est influencé par l'architecture javanaise et locale, le mât cylindrique convexe influencé par la culture européenne, tandis que la chaire est fortement influencée par la culture chinoise. Cela peut être vu sur le toit de la chaire qui est similaire à la forme d'un toit de temple. Autour de la chaire, il y a aussi des céramiques de Chine apportées par l'un des architectes de l'art. Il y a quelque chose d'unique sur la chaire. Il y a un ornement de calligraphie dans la petite porte de la chaire. La calligraphie arabe utilise la langue Makassar qui est traduite en indonésien comme suit. Cette chaire a été faite vendredi le 2 Muharram 1303 Hijriah. Sculpté par Karaeng Katanka avec Tumai Lalang Lolo. Si le prédicateur est déjà sur la chaire, il n'est plus autorisé à parler des problèmes du monde. Une autre particularité est que les murs en briques sont assez épais, atteignant 120 cm. Car cette mosquée était autrefois utilisée comme forteresse lorsque le roi de Goa combattit les envahisseurs. Chers auditeurs, c'était notre programme, le magazine culturel pour aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'Indonésie en couleur intitulée Application SIM National de Précision ou Application de Sinar. Mardi 13 avril dernier, le chef de la police nationale, le général de police Listio Sigit, a lancé une application en ligne pour la fabrication et l'extension du permis de conduire, à savoir le SINAR ou le Presisi National SIM. Selon Listio, la pandémie COVID-19 oblige également la police à innover dans les services, notamment en créant et en prolongeant les permis de conduire. SIM National Presisi ou SINAR est un service basé sur des applications pour la fabrication et l'extension de permis de conduire. Cette application vise à faciliter le service communautaire dans l'extension et la fabrication des permis de conduire ou SIM. Le lancement de l'application SINAR s'inscrit dans le cadre du programme de 100 jours ouvrables du chef de la police pour moderniser les services publics. Ce service se trouve dans l'application digitale Korlantas Polri qui ne peut être téléchargée que sur le Play Store pour les téléphones Android. La police a déclaré que iOS ou phone OS sur App Store suivrait. L'application Sinar Polri est accessible à tout moment et partout, ce qui le rend plus facile, plus rapide et plus précis. La première étape à franchir pour obtenir le service Sinar est de télécharger l'application digitale Korlantas Polri. Après cela, le public à suivre la procédure de création de la carte de permis de conduire dans l'application. L'application SINAR est faite temporairement pour l'extension de la carte de permis de conduire ou SIM en ligne. Le Code de la circulation ou Korlantas améliorera les services SINAR pour les applications des nouvelles cartes de permis de conduire. Outre l'extension de certificat immatriculation du véhicule et la création d'un livre du propriétaire de véhicule automobile, la Police nationale collabore avec PT Pos Indonesia dans les services de livraison de cartes de permis de conduire. Selon le chef du corps de la circulation, inspecteur général Istiono, avec cette application, le public peut être servi en envoyant des documents de cartes de permis de conduire qui ont été délivrés pour être livrés à l'adresse du demandeur. Pour l'instant, la création et l'extension de la carte via l'application SINAR ne sont valables que pour la carte de permis de conduire A et C. Avec l'application SINAR, la plupart du processus de création de la carte SIM n'a pas besoin d'être présente à l'unité d'organisation de l'administration SIM. Mais pour créer une nouvelle carte de SIM, la communauté doit encore venir à l'unité l'organisation de l'administration de carte de permis de conduire pour passer des examens pratiques. Cermi Setel Indonesia Angkuler de la Voix de l'Indonesia Diffusa Dopi Jakarta.
Kalau ditanya kenapa masih enggak punya pacar, itu bukan masalah, yang penting gue bahagia. Jangan salah, jadi jomblo itu enak. Akhir bulan uang di tabungan masih banyak. Mau beli ini itu enggak ada yang malak. Mau kesana kemari enggak ada yang galak. Meski jomblo gue enggak pernah sendirian. Buat gue jadi jomblo adalah pilihan. Daripada punya pacar enggak pengertian, malam minggu mending jalan bareng teman-teman. Status buat gue itu gak penting. Bukan sinetron di TV, gak perlu rating. Sore gue bukan Jones, jomblo ngenes. Kenalin, I'm a high quality jomblo.
Masih betah jadi jomblo, sans yeah. Bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo, sans bro. Masih betah jadi jomblo, sans bro. Sampai kapan jadi jomblo.
Jalani sendirian, gak ada pasangan. Bukan persoalan kalau sekedar pengen buang macan. Aku lelaki, ku ingin bebas. Di setiap gerakku gak perlu pengawas atau anjing galak yang menyalak dengan buas. Come on dude, aku bukan rangkas. Jomblo adalah kuda tanpa belana. Tak mengenal lelah, berlari di savana. Jauh dari masalah komitmen yang ada-ada. Itu cuma bikin gila. Ku ingin ke kanan, ku ingin ke kiri. Ku ingin bersenang dengan sepenuh hati. Karena apapun yang ku lakukan, I gotta go with the flow. It's me high quality jomblo.
No, you don't need to say what you say will come back. You know what I say. Just shut up, shut up. No, you...
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine
Bonsoir à toutes
musical.
Et à tous.
Bonne écoute.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et vous êtes avec moi, Audrey. Maintenant, je vais vous présenter le magazine musical et cette fois, vous allez écouter une chanson de Kenan Nasution. Chers auditeurs, le nom de Kenan Nasution s'est fait connaître lorsqu'il a fondé le groupe Sabdanada en 1966 avec ses frères et collègues. Dans ce groupe, Kenan est devenu un batteur. Au cours de sa carrière, Kenan est devenu membre de plusieurs groupes. À partir de Sabdanada, qui a ensuite changé son nom pour Gypsy en 1969. Il a également rejoint le groupe God Bless. Cependant, en 1975, il a fondé un groupe appelé le groupe Storm. Mais après cela, il était déterminé à poursuivre une carrière solo et a sorti son premier album intitulé Di Batas Angan Angan en 1978. Sa chanson à succès est intitulée Nuansa Bening, qui est intemporelle. Jusqu'à présent, la chanson est toujours agréable à écouter. D'autant plus que le jeune musicien Vidi Aliano a chanté une nouvelle version de Nuansa Bening en 2008. Cela rend certainement la jeune génération familière avec la chanson Nuansa Bening. Bon, chers auditeurs, voici Kenan Nasution va chanter la chanson intitulée Nuansa Bening. Bonne écoute.
Thank you.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.